Ouais, ça c'est quelque chose là, parce que un médecin que vous allez entendre dans un instant conclut au terme d'une étude là, très rigoureuse qui aurait surdiagnostic d'enfants autistes. On s'en va le rejoindre, Laurent Motron, donc psychiatre à l'hôpital de santé mentale de Rivière-des-Prairies. Bonjour.
Oui, et au CIUSSS du Nord de l'île de Montréal.
Au CIUSSS du Nord de l'île de Montréal. Oh, que c'est lourd de conséquences ce que vous affirmez, monsieur Motron. Expliquez-nous comment vous en venez à cette conclusion-là.
C'est quelque chose que tout le monde sait dans le réseau, par ailleurs. Ce que nous amenons, c'est une démonstration scientifique à l'échelle planétaire, à l'échelle de l'ensemble des études qui ont été faites pour trouver des différences entre les autistes et les personnes qui ne le sont pas. Ce qu'on constate, c'est que sur 50 ans, cette différence, elle s'amenuise jusqu'à devenir comme impalpable. On va donner le diagnostic d'autisme à des gens qui sont de plus en plus semblables à des non-autistes. Ce que ça signifie, c'est que la ressemblance à l'autisme et l'autisme tout court ne sont, on pourrait dire, plus distingués. Et ça a des conséquences de santé publique absolument considérables. Mmh. Ça amène à croire qu'il y a une sorte d'épidémie, ce qui n'est pas le cas. Ça a toutes sortes de conséquences. Ça a des conséquences sur les autistes qui le sont, parce que les services qu'ils devraient avoir sont un petit peu dilués. Mais ça a aussi des conséquences sur les autres conditions de l'autisme, qui sont obligés comme de se déguiser en autisme pour avoir des services.
Donc, c'est les médecins qui sont les premiers responsables.
Pas du tout. Là, je vous arrête tout de suite. On a un système dans lequel on fait pression sur les médecins pour qu'ils donnent un diagnostic. Et pas seulement les médecins, puisque le diagnostic d'autisme au Québec peut être obtenu également dans le privé, dans des cabinets de psychologues.
Oui, mais les médecins ne sont pas obligés de céder à ces pressions-là.
C'est vrai, il faut que vous sachiez que moi, quand j'enlève un diagnostic d'autisme, les gens pleurent parce qu'ils voient que les conséquences vont être qu'ils vont perdre des services. Donc, on est l'objet d'une pression considérable pour donner ces diagnostics. Moi, je n'y cède pas, la plupart des gens n'y cèdent pas, mais vous avez des gens qui le font. Et encore une fois, plusieurs professions, je dirais l'ensemble du système, est impliqué dans cette affaire-là. Je crois que le principal responsable, ce n'est pas une catégorie professionnelle particulière, c'est des dispositions légales qui attachent les services à un diagnostic. Pour arrêter ce problème-là, il faut découpler diagnostic et service. Actuellement, dans les classes TSA, vous avez un enfant sur deux.
Trouble du spectre de l'autisme, TSA,
c'est ça, les classes spéciales pour autistes, vous avez probablement un enfant sur deux qui justifie pas de ce diagnostic.
Qui n'est pas autiste.
Actuellement.
Qui n'est pas autiste.
Non, oui, c'est ça.
Attendez un peu, là. Comment vous pouvez être aussi affirmatif, le docteur Motron, là? Êtes-vous allé? Non, mais attendez, là. C'est parce que je vais vous dire, j'ai des parents d'enfants autistes qui m'écrivent au moment où on se parle, là. Puis ils la trouvent pas drôle, là, parce qu'ils se sentent, ils sont en train de se demander, coudon, y es-tu en train de dire que mon enfant est pas autiste, lui, là?
J'ai pas dit ça pour tous, j'ai dit qu'on a un problème actuellement de santé publique où il faut passer par un diagnostic d'autisme pour avoir un certain ratio de services. Actuellement, si vous avez une maladie qui n'a pas de nom ou une condition qui n'a pas de nom, il est extrêmement difficile d'avoir des services. C'est ça que je suis en train de vous dire.
Non, vous êtes notamment dans le système scolaire, c'est bien connu, là. Si vous avez un diagnostic d'autisme, ben à ce moment-là, vous pouvez demander certains services que vous n'aurez pas autrement. Bon, c'est de ça.
Voilà.
Bon,
ben, donc on est d'accord sur ce point.
Oui, on est d'accord sur ce point, mais je suis pas en train de dire, par contre, que les enfants diagnostiqués autistes ne le sont pas. C'est vous qui dites ça. Et là, je veux comprendre comment vous pouvez dire ça.
Attendez, où vous allez avec ça? Vous tirez une proposition générale alors que les miennes sont beaucoup plus nuancées. Je vous dis textuellement que les différences entre les autistes et les non-autistes sont en train de s'amenuiser avec le temps. Techniquement, notre résultat scientifique, c'est ça. Ce que vous en faites, là, M. Danville, c'est votre responsabilité, votre interprétation. Donc, je vous demanderai de reformuler comment vous interprétez ce que je dis et je vous dirai si ça a du sens ou non.
OK. Alors, vous me dites que des enfants non-autistes et des enfants autistes représentent de plus en plus les mêmes caractéristiques.
Voilà, ça, c'est exact.
Bon. Et donc, il y a des enfants qui sont diagnostiqués autistes qui, dans les faits, ne le sont pas. Exact?
C'est en tout cas mon avis en tant qu'expert de cette condition, et c'est le résultat d'une étude qui s'est faite au niveau planétaire et qui inclut 27 000 sujets, donc environ la quasi-totalité des autistes pour lesquels on a regardé des différences au niveau cérébral et au niveau du traitement de l'information avec les non-autistes.
OK, mais dites-moi comment vous avez fait ça, là. Est-ce que vous avez, évidemment, vous n'avez pas passé en entrevue 27 000 cas d'enfants, là? Donc, comment
c'est
vous...
ça. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé des méta-analyses de gens qui, domaine par domaine, avaient regardé si un résultat était vrai ou faux. Et il existe une notion en statistique qu'on appelle la taille d'effet, qui permet de dire l'importance d'une différence. C'est cette variable-là que nous avons étudiée. Nous avons regardé la relation entre la date de publication des études et l'importance de la taille des faits, et on a une décroissance vraiment très spectaculaire qui n'existe pas dans d'autres conditions, particulièrement comme la schizophrénie, dans lesquelles on n'a pas d'augmentation de prévalence rapportée. Il y a toujours autant de schizophrènes qu'il y en avait il y a 30 ans, tandis que dans le cas de l'autisme, vous avez une augmentation apparente de la prévalence. On en arrive maintenant à dire qu'il y a 15 fois ou 20 fois plus d'autistes qu'il y en avait il y a 30 ans.
OK, mais pourquoi attendez un peu, Dr. Matron, pourquoi c'est impossible qu'il y ait une augmentation de 20 ou 30 fois du nombre d'enfants autistes? Ça pourrait être causé par quelque chose dans l'environnement, par exemple, dont on ne connaît pas l'existence.
Bon, ça, et qu'on c'est a... ça, c'est les théories du complot.
Non, c'est à moi de vous arrêter, Dr. Matron.
Ils n'ont aucune espèce Dr. de Matron, là, c'est si vous m'interviewez, vous me laissez finir.
Bah oui, mais vous me laissez parler.
Si vous m'interviewez, vous me laissez finir.
Dr. Matron.
Parce que là, vous êtes en train d'inonder votre auditoire avec des théories du complot qui sont totalement réfutées scientifiquement.
Mais non, je parle pas.
Et d'ailleurs, je mets fin à cette entrevue.
Mais non, mais attendez un peu, là. Docteur Matron, attendez un peu, là. Docteur Matron, s'il vous plaît, si vous livrez des conclusions comme celle-là, vous devez être prêt à les défendre publiquement, parce que c'est très important ce que vous dites. Docteur Matron, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes là? Le docteur Matron n'est plus là. On entend sa voix, mais je pense qu'il a oublié de raccrocher le combiné. Alors, j'allais lui dire... pourquoi c'est impossible une augmentation de la prévalence du nombre d'enfants autistes par 20 ou 30 fois s'il y a effectivement dans l'environnement des... Par exemple, on parle de l'influence de pesticides. Hein? Il y a des théories qui ont été avancées à ce niveau-là. Il y aurait des facteurs environnementaux qui pourraient contribuer au développement puis à l'augmentation de la prévalence de l'autisme. Alors, c'est la question que je lui posais. Il n'y a rien de complotiste là-dedans. Est-ce qu'il est toujours là, Dr. Matron? Bon, il n'est plus là. Écoutez, moi, je pense que la question, elle se pose, là. Honnêtement, là, on sait bien, là, avec l'augmentation de la population, avec l'augmentation des problèmes de contamination de notre environnement. Moi, je ne suis pas médecin, là, mais je pense que c'est raisonnable de poser la question si l'augmentation du nombre d'enfants autistes n'est pas causée par des phénomènes que l'on n'a peut-être pas encore identifiés, mais qu'on va découvrir. Ça nous arrive de découvrir par la suite là, qu'il y avait un problème, qu'il y avait une substance, qu'il y avait quelque chose dans l'environnement. Je parle de l'environnement, il y a peut-être autre chose qui est à l'œuvre également. En tout cas, regardez, je ne vais pas faire l'entrevue tout seul, il n'est plus là. Bon. Mais je pense qu'on a compris quand même l'essentiel de sa conclusion. Je rappelle que c'est Jean-Benoît Legault de la presse canadienne qui a d'abord rapporté cette nouvelle-là. On va s'arrêter parce que après la pause, on va parler à la maman d'un enfant autiste, justement, Sophie Préjean, qui est présidente de l'Union des artistes, vous le savez, mais qui est aussi maman de Mathis, 18 ans. J'ai bien hâte de l'entendre réagir à l'entrevue qu'on vient de faire et qui va nous raconter, Sophie Préjean, ce que c'est que d'apprendre la nouvelle que ton enfant est autiste.